Et voilà, à l'instant, c'était Sana Bob avec Mon Pays. On se retrouve dans les studios de Radio Esperanza. Il est 15h30 et c'est l'heure du débat sur la thématique. Salut Déborah.
Bonjour Claire et bonjour à tous les auditeurs aussi. Et oui, donc la thématique, le droit à l'alimentation sur Esperanza cette année. Et aujourd'hui, comme on a parlé du droit à l'alimentation en général hier, aujourd'hui on va peut-être se pencher plutôt sur l'agroécologie et comment est-ce que l'agroécologie peut mener au droit à l'alimentation. Alors autour de la table, plusieurs intervenants.
Alors donc on retrouve d'abord Sébastien qui fait partie de Rencontres des Continents. Bonjour.
Salut.
Voilà, nous avons également dans mes petits papiers Marine qui représente SOS Faim. Et puis nous avons Mafor qui est un des partenaires sud représentant du Cameroun pour SOS Faim. Bonjour.
Bonjour.
Et également Hassan.
Bonjour.
Qui représente un des partenaires sud de SOS Faim au Niger. Voilà.
Alors d'abord, première question, parce qu'on parle d'agroécologie. Alors ce qui est très marrant, c'est que quand on regarde sur Wikipédia ce que c'est l'agroécologie, ils disent que c'est de l'agronomie avec de l'écologie. Ça tombe sous le sens vu que c'est agroécologie. Alors mais comment est-ce qu'on peut définir l'agroécologie?
Bon, allez, je commence. Ouais. En fait, l'agroécologie, souvent, c'est perçu comme un terme un peu qui pourrait être quelque part compliqué à comprendre. On se dit, tiens, c'est quoi effectivement ce mélange de écologie et agronomie? Moi, j'aime bien reprendre l'idée qu'en fait, il faut le voir comme un mouvement, mais qui a trois pôles, entre guillemets. C'est-à-dire un ensemble de pratiques à la fois agricoles, qui est donc le fait de travailler avec le sol, avec la terre et pas contre la terre. C'est à la fois un deuxième pilier qui serait celui de pratiques scientifiques, c'est-à-dire de recherche, d'analyse sur des manières de produire de l'alimentation, et à la fois un mouvement social, c'est-à-dire une série à la fois de revendications, mais aussi de positionnement éthique et politique sur la manière de concevoir son lien entre le fait de produire de la nourriture et le fait aussi d'avoir des consommateurs, des mangeurs. Voilà, c'est comme ça que moi j'aime bien le définir, mais voilà, j'emprunte ça à plein de gens qui le définissent comme ça.
Oui, peut-être on peut ajouter que c'est donc un nouveau terme, mais qui veut valider, qui est là pour montrer la validation par les sciences du vivant de savoir traditionnel, en fait. Depuis des millénaires, les paysans, puisqu'il s'agit bien, c'est leur connaissance qui est en jeu, la connaissance de la production d'alimentation et toute la connaissance de comment on fait pousser les plantes, comment on cultive la terre. Et un tas de choses qu'on prenait pour des intuitions qui aujourd'hui sont validées par les sciences du vivant et qui tout à coup donc ont un nouveau droit de cité et constituent une alternative nouvelle et presque la seule solution, comme le dit Pierre Rabhi dans son film, c'est aujourd'hui c'est la solution pour sauver la planète et le monde, pour nourrir à échéance de 2050, on sera 9 milliards d'habitants par exemple, donc ça c'est des enjeux très importants.
Voilà, donc c'est vraiment l'agroécologie, une manière de faire de l'agriculture, mais pas en la voyant comme une technique, sinon voir l'agriculture aussi dans sa perspective humaine, respect de l'environnement, ça va au-delà de « je produis de la nourriture ». C'est un tout, finalement.
Oui.
Hassan, tu veux intervenir?
Moi, j'ai juste une définition très simple. C'est un système de production qui respecte la terre qui nous nourrit. En quelque sorte, moi, c'est juste une... Mais c'est vrai, c'est un nouveau concept qui est venu. Mais chez nous, nous le pratiquons depuis des millénaires, quoi.
Est-ce qu'on peut rapprocher alors l'agroécologie de l'agriculture paysanne et familiale?
Ouais, enfin, moi, je pense que... Après, tout est toujours une question de définition, mais... une bonne partie des pratiques de l'agriculture paysanne, de l'agriculture familiale, peuvent rentrer dans ce qui serait des définitions de l'agroécologie à partir du moment où on est sur des exploitations familiales assez petites, assez localisées, qui mais effectivement essayent d'avoir un lien avec pas uniquement simplement la ferme là où ils sont, mais aussi le contexte dans lequel ils sont, le contexte socio-économique, que ça soit un village, que ça soit une communauté rurale. Je pense que les termes se recoupent, quoi. Mais voilà, si on voit ça comme un mouvement, l'agroécologie aussi.
Oui, puis on va l'opposer. Pour bien comprendre l'agroécologie, il faut avoir en tête que ça s'oppose et ça vient répondre au modèle agro-industriel qui existe donc chez nous depuis surtout la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc, et je ne sais plus, mais
Hassan.
Mafort.
Oui, j'ai perdu le fil, pardon, ça reviendra.
Alors, Sébastien, donc, pour revenir un peu à ce que tu fais dans Rencontre des continents, il s'agit pour toi de faire des animations, des formations, de l'accompagnement. Tu t'occupes aussi notamment de la communication, mais concrètement, comment ça se passe
Je me demande ce que tu as trouvé comme info sur le net.
Sur le site internet de Rencontre des continents.
Qui n'est pas à jour. Non, pas de souci, non, tranquille.
Donc, voilà. Concrètement, formation, animation, accompagnement par rapport à l'agroécologie, justement, bah alors, qu'est-ce que tu proposes, donc, qu'est-ce que tu fais?
Donc c'est vrai que complémentairement à un travail de plaidoyer politique que font des organisations comme le CNCD, ses membres, je pense à SOS Faim notamment, mais beaucoup d'autres, nous on se positionne plutôt sur le champ de l'éducation. Parfois l'éducation permanente en Belgique, éducation populaire, c'est-à-dire vraiment essayer de repartir des gens, de leur vision du monde, de leur vécu, de leur histoire, pour aborder les questions liées à l'alimentation, à l'agriculture, comme thématique principale pour soulever des questionnements sur le modèle dominant et ses impasses. Et donc c'est vrai que ça passe par un travail de formation où on va à la fois parler des enjeux politiques, mais aussi des enjeux pratico-pratique sur comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour se nourrir différemment, donc toutes les alternatives de consommation, les alternatives de production, les alternatives collectives de mise en réseau pour qu'on se réorganise quelque part, qu'on se réapproprie ce droit à se nourrir tout en respectant la planète et ses habitants. Donc ça passe par des animations, des formations, un travail de mise en réseau avec toute une série d'acteurs associatifs qui va de l'association de femmes dans un quartier populaire jusqu'à des ONG plus connues comme Greenpeace sur la question de la résistance aux OGM ou encore des associations locales qui mettent en place des potagers collectifs ou des groupes d'achat. Et je pense que toutes ces initiatives font partie d'un mouvement qui s'oppose au modèle agro-industriel, donc le mouvement pour l'agroécologie. Et on essaye, avec nos petits moyens, vu qu'on est une petite asso, d'essayer de mettre en lien tous ces gens-là et d'essayer de faire un travail aussi sur le long terme. Et donc de surtout pas intervenir en disant c'est ceci ou c'est cela, mais d'essayer petit à petit de mettre en action les gens, de les mettre en processus pour mettre en place des alternatives, quoi.
Les gens d'ici ?
Principalement, ouais, notre public, c'est vraiment... on va dire les citoyens et citoyennes qui vivent dans nos régions, ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait pas le lien, on le fait tout le temps entre les interdépendances nord-sud et donc notre impact sur les pays du sud, sur les paysans, sur les populations et sur l'environnement.
Alors justement, pratiquement, l'éco-écologie, qu'est-ce que j'ai dit ?
L'éco-écologie.
Ah, c'est nul ça. L'agroécologie, je vais y arriver, c'est le deuxième jour. Donc l'agroécologie, concrètement, comment est-ce que ça se met en place ? Qu'est-ce qu'on fait pour faire de l'agroécologie ? Qu'est-ce que vous faites par exemple ?
Bon, nous, dans nos pratiques, c'est des pratiques qu'on fait pour respecter l'environnement, sans créer d'autres problèmes. C'est-à-dire, tout de suite, je l'ai expliqué après le film, par rapport à l'agroécologie sur le maraîchage, par exemple. Moi personnellement, je fais du poivron et je fais des oignons. En termes d'engrais, nous utilisons parfois les faïences, on dit les faïences de poules. Mm-hmm. C'est ça, donc les déchets là, on utilise pour faire des engrais. En termes de produits phyto, nous utilisons des arbres. Il y a un arbre, je ne sais pas pour ceux qui connaissent l'Afrique, qu'on appelle neem, qui est trop piquant. Les feuilles sont trop piquantes. Et on bourrasse ça et on tire du jus. Et c'est avec ce jus qu'on traite. Ça, il n'y a aucun problème. On traite pas mal d'insectes, pas mal de parasites sur nos cultures maraîchères. Tout ça, c'est des pratiques agroécologiques que nous faisons, mais que nous, on ne s'aperçoit pas, quoi. C'est avec maintenant le concept agroécologie que les gens commencent à comprendre que ces pratiques-là sont des pratiques qui sont vraiment respectueuses de l'environnement et les cultures qu'on en produit sont aussi bonnes pour, nos, pour notre santé.
Et toutes ces pratiques, vous les partagez à travers des organisations paysannes ou comment est-ce que ça se passe en fait? Qu'est-ce que tu représentes une quelconque association, une organisation?
Oui, oui, je représente une fédération, c'est-à-dire une organisation fêtière de producteurs de riz. J'ai dû faire une pratique agroécologique sur le riz aussi. Et c'est des choses qu'on partage. D'ailleurs, beaucoup de gens les connaissent. C'est même pas la peine de les faire partager parce que c'est notre quotidien comme ça. Il y a plein de systèmes de pratiques agroécologiques sur les différents systèmes écologiques, que ce soit le riz, que ce soit le maraîchage ou les cultures dunaires, c'est-à-dire les cultures qui sont conditionnées par la pluie.
Et j'aimerais ajouter qu'au Cameroun, donc les paysans pratiquent ça, comme Hassan vient de soulever, mais ils ne sont pas conscients du fait que c'est l'agroécologie qu'ils font. Maintenant, les structures comme Noé For, c'est-à-dire Northwest Farmers Organization, que SOS Fin soutient, c'est pour expliquer aux gens, c'est pour faire la sensibilisation, pour les éduquer que ce que vous faites là est bon. Il faut rester sur ça. Parce qu'en Afrique, les paysans croient que c'est la modernisation, c'est de professionnaliser l'agriculture qui est bien. Mais on les dit que oui, c'est bien d'avoir cet esprit, mais il ne faut pas sortir hors de votre pratique naturelle, pratique culturelle, parce que ça aussi, c'est bon pour la santé du sol, de l'environnement, et ce qu'on va produire sera aussi bon pour notre santé.
Et vous produisez quoi?
Nous sommes dans le maraîchage, donc production de la tomate, production de élevage de poulet et du porc.
D'accord. Non, ça va. Voilà. Je croyais que c'était que vous faisiez de l'agroforesterie. C'est pas vous.
Si. L'agroforesterie veut dire quoi? Ça veut dire que dans tout ce qu'on fait, on intègre les arbres dedans. Donc, il y a les arbres fruitiers, les arbres... Ce n'est pas qu'on cultive l'agroforesterie, c'est juste l'intégration d'aspects d'arbres dans ce qu'on fait, quoi.
D'accord, voilà.
Oui, sur le site du CNCD, il y a une assez chouette définition, en fait, de l'agroécologie qui, justement, insiste aussi sur le sujet du reboisement après avoir planté, par exemple, après avoir produit, prendre en compte aussi ce sujet, quoi, le reboisement, qui alors peut s'appeler l'agroforesterie.
L'agroforesterie, oui. Oui, oui.
Mais c'est surtout, ça consiste à combiner les cultures aussi, toute la partie de l'agroécologie, c'est pas seulement produire bio, mais c'est produire en harmonie avec l'écosystème, donc répondre à l'écosystème et choisir les cultures qu'on va faire qui vont être le plus adaptées. Et notamment l'agroforesterie, la grande qualité, c'est qu'un arbre va donner de l'ombre, va protéger du soleil, va préserver un peu l'humidité des sols. Enfin, il y a un tas d'aspects assez techniques, mais qui donnent beaucoup plus de valeur. Et donc, ma idée de tout à l'heure revient, c'est qu'en effet, l'agriculture familiale, si on la comprend comme par opposition à l'agro-industrie, sa grande force, c'est de s'occuper de petites surfaces. Et c'est aussi là qu'on peut reconquérir quelque chose de très important pour l'avenir, parce que les études ont montré que finalement, contre toute attente et contre tous nos préjugés, l'agriculture la plus productive, c'est celle qu'on pratique sur les plus petites surfaces. C'est quand on apporte le plus de soins au sol, qu'on est très précautionneux, qu'on connaît sa terre, qu'on va pouvoir en obtenir le plus par rapport à cette agriculture, cette monoculture qui est la nôtre, où on voit des champs s'étendre à perte de vue, mais où entre les lignes, le sol est vide et nu, la terre est morte, et les rendements, de toute façon, sont à quelques années près. Enfin, tout ça est menacé parce qu'il n'y a plus la fertilité des sols. Donc voilà, l'agriculture familiale, si elle réussit à s'occuper de son sol, comme elle est sur des petites surfaces, elle est plus attentive, elle connaît mieux sa terre, elle peut prodiguer beaucoup plus de soins. Maintenant, comme on le verra sans doute après, il y a toute cette difficulté qui est la tentation de la modernité, et qui fait que parfois, même sur des petites exploitations, on a des pratiques qui s'éloignent de l'agroécologie.
Voilà, c'était justement à ça que je voulais en venir, parce que c'est très intéressant ce que tu dis par rapport à ce que viennent de souligner Hassan et Mafor. Donc, vous, ce que vous faites, c'est d'expliquer aux gens qu'il faut conserver les pratiques telles que vous les appliquez jusque maintenant, et donc les protéger finalement d'une forme de menace de modernité, comme disait Marine. Alors la menace, elle vient d'où concrètement, qu'est-ce qui se passe? Les gens ont envie d'essayer des nouveaux produits, des nouvelles technologies, et il faut leur dire non alors.
Non, et je vais vous expliquer quelque chose qui se passe maintenant chez nous à Bamenda. Avec le fait du changement climat, les insectes sont beaucoup plus résistants maintenant. Il y a tous les pesticides, les nématodes et tout ça qui dérange la production. Et maintenant, les produits que les paysans, parce qu'ils utilisaient les produits chimiques, maintenant, les produits là qu'ils utilisaient, comme les pesticides, les pestes sont devenus plus résistants, ça ne marche plus. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent maintenant la dose. Il augmente le nombre de fois qu'ils mettent ça. Et tout ça, ça devient... À la fin, ils produisent ce qu'ils ne peuvent pas manger. Ils produisent ça, ils envoient ça au marché. Et quand tu les demandes, ils disent que non, moi, je ne peux pas manger ça. Parce que si je mange, j'ai tellement mis des produits sur ça que je ne peux pas manger. Si je mange ça, ça va me donner du cancer et tout ça. Donc, ils savent que c'est qu'ils... n'est pas bien. Et nous, maintenant, notre rôle est quoi? De les faire comprendre que la solution de tout ça, ce n'est pas d'augmenter les doses de produits chimiques ou bien d'utiliser les produits chimiques. Il y a des alternatives et maintenant, on les montre les alternatives. C'est tout.
En fait, moi, je dirais que la menace vient de deux côtés. D'abord, au niveau des grandes firmes. Les grandes firmes, vous savez, elles produisent aujourd'hui des semences telles que les OGM, qu'elles nous font déverser, qu'elles nous font tout un truc de publicité par rapport à ces semences pour nous dire qu'elles sont... Elles font un lavage de cerveau de nos décideurs, comme quoi c'est des semences qui donnent plus, qui sont plus productives, malgré tout le mal que ces semences portent. Ça, c'est un. Deuxièmement, cela est dû aussi à nos politiques agricoles, à nos politiques qui ne sont pas adaptées, qui ne sont pas cohérentes à nos réalités. Nos décideurs, dans certains pays, il n'y a même pas de politique agricole. Et s'il y en a, c'est des politiques qui sont de tout le temps financées, en tout cas qui sont toujours la main tendue vers le nord, pour avoir des ressources pour financer ces politiques. Et vous voyez, ça crée des problèmes. Et nos décideurs pensent que avec des gros engins, avec des grosses superficies, ils pensent que ça peut beaucoup produire et ça fait donner beaucoup de choses. Mais retournons en arrière, même au nord, même dans les pays du nord, il y a 100 ans, les gens, il n'y avait pas ces grosses machines. Les gens étaient sur des fermes, sur des petites fermes, elles produisent beaucoup et mieux encore. Donc, nous pensons que la meilleure solution pour garder la terre que nous nourrit, c'est de se tenir sur nos exploitations familiales et de faire des pratiques agro-écologiques.
On va passer une petite pause musicale, histoire de faire un petit break, et puis on revient évidemment sur tout ça, donc essentiellement sur l'agroécologie. Okay.
When I'm up in my room,
and I'm thinking of you,
when I'm up in my room,
I'm just finding my way through this sinister day. Just let the music play. Emancipating my aunt from Hollywood life, too many people got caught. Emancipating my mind from a system designed to limit my kind. But I leave that behind when I'm up in my room. That's why I'm down on my knees, yeah, to make you my queen. My mind and heart are making peace, didn't come here to please nobody but
ganja. Let my colors increase. Let us run to the east. Let us look for the keys that can open the rooms. Yeah, check up my trees. Cause when I'm up in my room,
and I'm thinking of you,
I'm just finding my way through the sinister day. Just let the music play. Love and happiness, as long as there's a heart within our chest. Believe in yourself and love, we'll do the rest. We have to manifest, someone to understand, some overstand, someone to live, someone to be lived by them. For others that don't know what I'm saying, let me break it down again. Up in my room,
radio partenaire de Radio Esperanza. 48 FM à Liège, Radio Campus, Radio Panique et Radio Tam Tam à Bruxelles, Run à Namur, UFM à Mons et Radio Campus à Amiens.
Et voilà, de retour dans ce débat à Radio Esperanza 106.2 FM autour de Floref. On parlait d'agroécologie, on va continuer d'ailleurs de parler d'agroécologie. Alors on disait que finalement l'agro, j'ai oublié de fermer la fenêtre, on disait justement que l'agroécologie finalement on en fait sans savoir parce qu'on revient à des, où on n'a jamais quitté, des traditions en fait finalement de culture. Alors justement on pourrait se dire alors, qu'est-ce qu'on fait? On revient à une agriculture traditionnelle, une agriculture d'antan, alors que finalement les avancées en matière d'agriculture visaient une production toujours plus élevée et qui allait justement permettre d'éradiquer la faim dans le monde. Enfin, c'était ce qu'on nous proposait, ce qu'on nous montrait, par exemple les OGM. Alors force est de constater que justement, on s'est planté. Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a cru à un moment où on a fait croire, enfin, il y a quelque chose qui colle pas là?
Oui, ça colle pas. On a, au départ, certainement, l'agriculture intensive a permis d'améliorer les rendements. Ça, on va pas dire le contraire. Il y a eu une marge de progression importante. Effectivement, l'Europe, au sortir de la guerre, a réussi à nourrir sa population alors qu'on était, c'était un marasme total en 1945. Donc, on a reconstruit avec l'aide de la politique agricole commune. On a construit un modèle agricole qui a eu ses vertus. Hein. On est rentré dans l'autosuffisance, on est devenu une force exportatrice, tout ça, très bien. Sauf que ça a ses limites, on les a atteintes, à la fois à cause de... les sols s'appauvrissent du fait de l'utilisation de matières chimiques, d'engrais chimiques et d'herbicides. On met en danger nos sols. Il y a ça d'une part, et puis il y a surtout plus largement l'ensemble du modèle qui crée des filières très complexes, qui éloigne le producteur et le consommateur. Il y a une aliénation très forte aussi bien des paysans qui sont pris dans un système qui les dépasse, l'endettement, des machines toujours plus performantes et des producteurs production toujours plus mauvaise, quoi, au niveau de la qualité. Et puis, donc, il y a ce lien avec la terre qui est perdu pour les consommateurs, mais aussi pour les paysans. Hein. Ce n'est pas derrière leurs machines, leurs écrans qu'ils conservent le contact. Donc, on a besoin peut-être de resacraliser déjà. Il y a aussi un besoin de... L'homme, il est aussi spirituel. On a besoin de resacraliser, de retrouver ce lien. Donc, c'est peut-être ça l'enjeu. Et puis, je m'embarque. La question, c'était quoi
que...
Pourquoi ça évolue comme ça? Et non, et pourquoi on refait peut-être le tournant intéressant? C'est, je peux raconter rapidement l'histoire du rapport Ice-Tead, qui est quand même celui qui est très déterminant pour rendre conscience sur l'importance de l'agroécologie pour nourrir le monde. C'est en 2007, en fait, à la Banque mondiale, grosses entreprises semencières qui se disent, tiens, ce serait bien qu'on fasse une étude pour montrer que c'est nous qui avons le pouvoir de nourrir la planète, les hybrides, les OGM et tout. Et ils soufflent l'idée à la Banque mondiale. La Banque mondiale dit OK, mais bon, ils se disent, on peut quand même, il faut écouter un peu tous les avis. Et ils commanditent une grande étude qui est confiée à des experts internationaux, un grand panel d'experts très important, qui travaillent pendant plusieurs années sur toute la planète. Et en 2008, ils peuvent sortir un rapport qui fait un état des lieux de l'agriculture telle qu'elle fonctionne et de ses capacités et des solutions pour nourrir la planète. Et puis, ça passe à l'as. On n'en a pas entendu parler. Le grand public ne sait pas que cette étude existe alors que elle est bien publiée. La Banque mondiale l'a gentiment enterrée. Maintenant, cette étude existe et c'est bien elle notamment qui dit que les petites surfaces exploitées sont les plus productives, enfin, qui fait tout le plaidoyer pour l'agroécologie et non pas, comme les entreprises semencières l'attendaient, pour les hybrides et les OGM.
Et comment, ce retour à des traditions plus correctes d'agriculture, est-ce que c'est facilement, est-ce qu'on peut facilement mettre ça en place?
Alors là, je vais m'exprimer vraiment en tant que citoyen. Je pense pas que c'est moins facile que ça pourrait en avoir l'air. Vu le modèle dans lequel on a été, vu la situation actuelle non seulement économique de nos producteurs, chez nous par exemple en Occident, vu la situation actuelle des sols, ça va pas être facile. Mais donc ça, c'est important de le dire. Mais il faut y aller et c'est possible. D'ailleurs, ça montre toutes les expériences à travers le monde que relève la pratique de l'agroécologie, montre que ça marche, montre que c'est faisable, montre qu'il y a moyen de renourrir des sols, qu'il y a moyen de nourrir des populations, qu'on peut même produire plus et que c'est même plus rentable que l'agro-industrie.
C'est quand même pas évident à faire croire aux gens.
Je pense que c'est par la pratique que ça va se faire.
Il y a les lobbies aussi, les lobbies financiers, les entreprises, les firmes qui vont.
Non, non,
vont
mais
évidemment
voilà. Donc, effectivement, c'est pas évident, mais donc une lutte est jamais évidente. Et je pense que les combats comme ceux-là, ils vont pas être gagnés comme ça simplement en disant regardez, c'est super l'agroécologie, ouh, ça marche. Non, il y a plein de verrous à faire sauter. Hassan en évoquait un qui était celui sous lequel je voulais revenir deux secondes. Effectivement, de la prédominance des grosses industries et de l'agro-industrie et des grandes entreprises. C'est clair qu'aujourd'hui, quand on voit les chiffres d'affaires de sociétés pour pas les citer, vous les connaissez, il y en a quelques-unes. Si, on va les citer. D'ailleurs, Monsanto, Syngenta, Pioneer, tous ceux qui produisent des semences hybrides et l'arsenal de produits phyto qui vont avec. C'est très simple, je veux dire, dans la balance, quand on voit aujourd'hui le budget qu'a un État qui l'alloue à l'agriculture et puis les sommes dont disposent ces entreprises, le rapport de force, il est vite fait. Et c'est pour ça qu'on doit à tout prix se battre aussi, je pense, du côté de la société civile, du côté des paysans, des producteurs, des mangeurs, des consommateurs, pour à un moment donné arriver quelque part à faire sauter ces verrous-là qui sont très présents. Et on le disait pendant la pause, à Bruxelles aujourd'hui, il y a combien de personnes qui font du plaidoyer politique pour une agriculture paysanne? Il y a combien de personnes qui bossent, qui ont leur carte d'accès pour rentrer au Parlement européen, influencer les politiques agricoles européennes, qui, on sait, ont un impact sur le reste des politiques agricoles au niveau international? Et donc le rapport de force, il est là, mais si on n'est pas plus à un moment donné à se mouiller, mais vraiment à se mouiller aussi bien quand il faut soutenir des personnes qui vont faucher des OGM, aussi bien pour soutenir nos producteurs qui sont dans les pays du Sud, et aussi bien pour nourrir et pour soutenir nos producteurs pour avoir un accès à la terre et refavoriser une agriculture locale. Mais effectivement, le rapport de force, il sera plutôt en la faveur de ceux qui ont fait la pluie et le beau temps, soi-disant, depuis 50 ans. Mais voilà, donc c'est des choix qu'il faut faire. Je pense que ça se passe du côté de la société civile. Ça se passe évidemment aussi du côté des politiques, qui aujourd'hui, si elles seront plus du côté de l'agro-industrie, ça ne va pas le faire. Et donc là, c'est clair que c'est des combats qui sont à mener. Et juste un truc, par revenir sur l'agroécologie, il faudra aussi puisse quand même se méfier à ce qu'on va en faire de cette agroécologie. Si on n'arrive pas à continuer à l'ancrer dans des pratiques à la fois paysannes, à la fois de consommateurs et à la fois avec le monde académique scientifique qui va venir derrière, et c'est pas des uberlus écolos radicaux de gauche ou je ne sais quoi qui sont en train de les mettre en place, si on n'a pas ça réuni, ben, ça va aussi être récupéré. Et c'est en partie déjà le cas, vu qu'on a des personnes en France, c'est le ministre Le Foll qui utilise maintenant, il dit ouais, on va faire de l'agroécologie. En région wallonne, c'est plusieurs fois sorti qu'on allait en parler, c'est très bien, allons-y. Mais voyons comment est-ce qu'on va y aller. Si à un moment donné, et c'est pas moi qui le dis, c'est de Scooter dans différents de ses articles, si on laisse ça aux mains des experts et si on n'arrive pas à vraiment maintenir ces pratiques-là dans une base sociale forte avec des pratiques, et donc là, il y a un travail d'éducation à faire, il y a un travail sur les écoles agricoles qui va falloir reformer des gens, on va avoir besoin de paysans. Et si on n'a pas tout ça en même temps, ben, le rapport de force, clairement, il ne sera pas en notre faveur. Mais donc oui, c'est pas facile, mais il faut y aller, sinon on ne serait pas là.
Ah oui, pour rebondir sur ce que dit Sébastien, je partage complètement. Mais donc ça, c'est l'état des lieux au nord. Au sud, c'est la même chose. C'est bien l'enjeu, le combat, il est aux mains de la société civile, parce qu'il faut savoir qu'au sud, ben, les gouvernants, les États qui sont complètement paupérisés, qui n'ont plus d'argent, c'est la conséquence des ajustements structurels, etc. Donc ils n'ont plus les moyens de faire des politiques agricoles. Et ben, ces États-là, s'ils veulent aider les paysans, le monde agricole, ils sont à la merci des bailleurs de fonds du Nord. Et ces bailleurs de fonds, avec ce qu'on appelle aujourd'hui le partenariat public-privé, hein, c'est aussi une grande nouveauté, et ben, ça veut dire qu'on confie les politiques aux bailleurs privés. Les bailleurs privés, c'est qui? C'est par exemple la fondation Bill et Melinda Gates, pour ne pas les citer. On les retrouve, ces deux-là aussi. Et ben, eux, ils ont monté un projet de révolution verte en Afrique. D'accord. Et la révolution verte en Afrique, ce n'est pas autre chose qu'introduire les hybrides et les OGM à terme, même s'ils s'en défendent, mais en tout cas les hybrides. Et ces hybrides qui seraient une catastrophe, qui ont déjà fait des catastrophes en Inde. S'ils arrivent en Afrique de l'Ouest, il faut savoir que les paysans en Afrique, ils échangent les semences, ils se partagent les semences. Les hybrides, ça veut dire chaque année racheter des semences, et on est des populations qui n'ont pas les moyens. Mais je passe la parole à Hassan.
Oui, effectivement, comme le dit Marine, Agra est en train de s'installer, ça fait des années. Agra, c'est la fondation Bill et Melinda Gates, en train de s'installer à travers son projet Révolution verte en Afrique. C'est vrai, les hybrides au Niger, par exemple, moi, je n'ai pas vu des hybrides pour le moment par rapport au riz. Parce que même si ces jardins de semences arrivent, nous ne pouvons pas les acheter parce que c'est des semences qui sont chères et il faut les renouveler tout le temps. Et quand vous savez, quand il faut aller, c'est que les marines qui sont toujours en Afrique, elles savent que les semences, on peut les utiliser 3 ou 4 fois même. Ouais, c'est une semence, un seul kilo de semences de 1000 ou de riz de semences améliorées peut coûter 2000 francs. Et vous voyez, ce n'est pas à la portée de n'importe qui.
Vous ne pouvez pas les acheter, voilà. Je t'interromps, pardon, mais le problème, c'est qu'ils vous les offrent. Oui, dans un premier temps, ils subventionnent.
Justement,
pour vous rendre dépendant.
En premier temps, ils arrivent avec des petits projets, ils subventionnent, mais après, ils essaient de nous faire inculquer dans nos traditions. Et vous voyez, c'est que ça commence comme ça.
Je ne vais pas m'énerver sur mon micro, mais je deviens rouge. Voilà, qui est déjà rouge, je deviens rouge comme mon micro. C'est mesquin, c'est
dégueulasse.
C'est diabolique, en fait.
Voilà. Oui, en plus, c'est assez culotté aussi d'appeler ça révolution verte, quand même.
Ben, pourquoi oui. pas hein. C'est non, le greenwashing. Ben,
quand on dit vert, on pense souvent à écologie, à retour à la nature et tout ça. Et l'autre, il va appeler ça révolution.
Mais après, enfin, moi, j'aurais pas envie non plus qu'on quitte cette émission sans quand même montrer qu'il y a aujourd'hui.
Non, c'est pas encore fini, on peut continuer.
Non, je sais, mais donc je pense que s'énerver sur ce qui va pas, c'est super important, mais c'est super important de s'énerver aussi pour continuer à soutenir ce qui marche et les gens qui essayent de justement propager quelque part toutes ces alternatives au sein, par exemple, du mouvement de l'agroécologie. Et il y en a plein et ça marche quoi. Je veux dire, dans plein de pays, il y a plein d'organisations pour le moment qui sont en train d'effectivement recenser un peu toutes ces pratiques. Alors certaines vont se défendre de l'agroécologie, d'autres pas. Je dirais peu importe entre guillemets. Ce qui est important de montrer, c'est quelque part que toutes ces initiatives-là aujourd'hui, elles s'opposent au système actuel. Elles s'opposent de manière forte. Elles s'opposent en montrant ça ne va pas. On veut reprendre notre. Et là, on est en plein dans la thématique. On veut reprendre notre droit à se nourrir.
correctement, parce correctement, que c'est ça qui est important.
En nous respectant nous, en respectant les autres, en respectant le sol, en respectant l'environnement, la biodiversité. Et ça, c'est quelque chose qui est très, très ancré. Enfin, les mouvements paysans le montrent aujourd'hui à travers le monde. Les mouvements comme Via Campesina et tous leurs membres, que quelque part, on fera pas sans eux non plus. Et donc ça aussi, il faut bien se rendre compte qu'on fera pas sans les paysans. Et c'est pour ça qu'il y a un travail, je pense, de fond à faire à tous les niveaux, au niveau politique, éducatif aussi. Qui sait encore qu'est-ce qui se cache derrière un paquet de chips, une courgette, enfin on prend toujours l'exemple de la courgette, mais on a plein d'autres. Mais c'est vrai, je veux dire, qui se rendent compte de ça, la question des saisons, et parfois c'est des trucs tout cons aussi, hein. Faut pas être un expert de l'agroécologie pour défendre l'agroécologie et défendre le droit à l'alimentation, ça il faut le dire aussi aux personnes qui écoutent. Faut pas uniquement travailler dans une organisation qui défend ces choses-là, ou être producteur, ou être paysan, ou pour... Non, il faut pas, c'est des pratiques toutes bêtes, je veux dire, le fait de reconsommer en circuit court, le fait de faire son potager si vous avez un espace, le fait non plus d'exiger, mais de reprendre des terres qui sont cultivables aussi, plutôt qu'y mettre des aéroports ou d'autres genres de choses, mais il faut le faire.
Ça me rappelle quelque chose, ça.
Oui, moi aussi. Ce rien, c'est un truc qui se fera pas de façon.
Au sud, il y a un réveil vraiment de conscience de la société civile et des organisations paysannes, surtout avec l'appui de nos partenaires du Nord. Ce que SOS fait en train de sensibiliser, Osfam également, le Via Campesina autour de quel on se retrouve. Toutes ces organisations en train de sensibiliser la société civile du Sud pour un éveil de conscience par rapport à ces dangers. Voilà.
Il y a quand même aussi un travail à faire au niveau de la population, parce que si on ne change pas aussi une manière de consommer, on n'arrivera jamais à faire passer un changement d'agriculture.
Oui, mais clairement, mais sincèrement, enfin, ça fait pas très longtemps non plus. Moi, ça fait 4-5 ans que je travaille, que j'essaye de barouder, de m'intéresser à ça et de militer là-dedans. Je pense qu'il y a quand même, tu parles à Sane d'un éveil des consciences au Sud, je pense qu'il est actuellement aussi en train de se préparer au Nord. Je pense que c'est pas pour rien aujourd'hui qu'on peut remarquer, prenez les grandes surfaces, hein, pour pas les citer, Carrefour récemment, Foire de Libramont, voilà, ils se positionnaient sur les circuits courts. Donc voilà.
Les
circuits courts, ça veut dire de consommer local et de faire des rayons pour le local. Alors, je ne vais pas critiquer d'emblée. On peut avoir des gros débats sur la transition. C'est quoi? Est-ce qu'il faut faire avec? Est-ce qu'il faut faire sans? Ça nous prendrait des heures. Juste en train de se remarquer, quelque part, c'est toujours les mouvements sociaux, c'est toujours d'en bas qu'on a donné le ton sur vers où on pouvait aller ou vers où on devait aller si on voulait un changement. La question du local, maintenant, elle est sur... il suffit d'ouvrir un prospectus, un journal de n'importe quel supermarché. Ils vous mettront de plus en plus. Voilà, c'est du local, c'est du belge. C'est bon, allez-y. Ce qui est important, je pense, c'est d'éduquer, enfin je sais pas si tu as dit ça, de s'intéresser à la population. Je pense qu'il faut surtout apprendre aux gens à développer un regard critique sur les choses. Que l'agroécologie soit à un moment donné récupérée ou pas, peu importe. Ce qu'il faut, c'est que les gens puissent savoir de quoi est-ce qu'on parle, qu'est-ce qu'il y a derrière. Se poser la question à un moment donné sur, ok, ça a été produit par qui, dans quelles conditions, à quel prix. Entamer une discussion sur l'agroécologie avec la majorité des producteurs aujourd'hui, qui est la réalité de l'agriculture. La réalité de l'agriculture, c'est pas encore les petits mouvements paysans, ça reste peu. En tout cas chez nous, hein, je parle en Europe, ça va être par exemple aborder la question du prix. Mais qui se pose encore la question de combien ça coûte mon bout de steak, ma salade ou mon pot de yaourt, quoi?
Mais si on se pose la question de savoir ce que ça coûte, parce que ça fait...
Est-ce qu'il se cache derrière le prix? Oui, est-ce qu'il se cache derrière le prix? C'est ça que je voulais dire.
Il y a encore malheureusement beaucoup de gens qui vont aller acheter des haricots princesses qui sont produits au Kenya alors qu'on en produit ici, tout simplement parce qu'ils sont moins chers quand ils viennent du Kenya, quoi, par exemple.
Non, c'est certain que le rôle du consommateur est fondamental, hein, pour qu'on évolue, en particulier au Nord. Le consommateur, c'est à lui d'évoluer pour faire changer le marché aussi. Mais au Sud, on a une situation quand même assez différente dans la mesure où la conscientisation du consommateur, elle est pas faite du tout, on peut le dire. Et c'est pour ça que là, la société civile au Sud, elle est exclusivement entre les mains des organisations paysannes. Et c'est là que c'est fondamental de les soutenir, parce que le changement, c'est eux qui peuvent le porter. Donc le renforcement de ces organisations, que ce soit au niveau moins de la production, hein, c'est pas la production qu'on accompagne vraiment, c'est beaucoup plus les questions de transformation, commercialisation, accès au marché et pour produire des aliments qui vont être rémunérateurs pour les producteurs et puis faire tout doucement évoluer les consommateurs. Mais vous, vraiment, voilà, au Sud, c'est le message, c'est que c'est que les organisations paysannes, c'est entre leurs mains. Et on essaie de les accompagner comme on peut, mais là, ils ont des... enfin, une grosse responsabilité.
Ouais. C'est pas ma faute. Oui, Marine, je suis tout à fait d'accord avec toi. Au sud, c'est beaucoup plus entre les mains des ONG comme la nôtre, les organisations civiles, quoi. Donc oui, c'est beaucoup plus dans les mains de ces personnes, parce que le consommateur, une femme va au marché, c'est juste pour acheter ce qu'elle va voir pour un prix très bas et ça va, c'est fini comme ça. Donc nous essayons d'attaquer le producteur pour qu'il puisse produire ce qui est consommable et produire ça bien. Bon, je voulais revenir sur l'affaire de politique agricole. Chez nous, je veux dire, je ne sais pas si je peux dire ça, c'est pire, quoi. On a beaucoup de travail à faire sur ça. Parce que nos leaders africains, je ne sais pas, il faut qu'on les ouvre la tête. Parce que chez nous, par exemple, les terres sont encore ouvertes. Il n'y a rien pour protéger les terres. Tu vois, les Chinois viennent et ils défrigent la forêt naturelle, peut-être 30 hectares comme ça. Et puis, les 30 hectares-là, ils vont défriser tout. Ils ne pensent même pas qu'ils peuvent laisser certains arbres ou certaines espèces pour conserver la biodiversité et tout ça. Et puis, nos gouvernements ne font rien. Ils disent que c'est partenariat privé ou c'est quoi là, mais là ça ne va pas franchement, et nous sommes en train de faire le plaidoyage et tout ça, et c'est pour ça qu'on dit on dit ici que ce n'est pas seulement dans nos mains, il faut aussi que les gens le Nord nous soutient pour faire ça. C'est
voilà, d'où l'intervention et le partenariat avec SOS Faim, en fait, parce que j'allais poser la question. Bon, du coup, comment le lien se fait? Est-ce que c'est dans comme un accord? Bon, ben, on a besoin du Nord de votre soutien, ou nous, du Nord, est-ce qu'on considère
C'est-à-dire, on a besoin du soutien du Nord. Par exemple, nous, SOS Faim nous accompagne en tant qu'organisation fêtière, mais SOS Faim peut aller au Parlement européen. Parce que le Parlement a des influences, ils peuvent influencer nos gouvernements à respecter certaines choses. Parce que chez nous, au Sud, c'est surtout un problème de gouvernance aussi. Oui. C'est un problème de gouvernance aussi qui crée certains problèmes. C'est ça aussi. Donc, ceux qui sont les ONG du Nord peuvent accéder au Parlement pour parler des problèmes que les producteurs du Sud ont. Et ils peuvent influencer nos décideurs. Parce que nous, chez nous, accéder à nos décideurs pour leur dire certaines choses. Parfois, c'est un péché de je ne sais pas, tu risques même ta vie dans certains pays. Mm-hmm. Ouais, c'est pas facile de dire certaines choses, de critiquer un système au niveau de nos pays. Dans certains pays du Sud, vraiment, si tu crées des problèmes pour toi.
Voilà, d'où du coup la représentation des SOS Faim aussi se doit d'être un peu le porte-parole.
Au-delà du porte-parole, pour illustrer ce que disait Hassan, SOS Faim fait partie de ce qu'on appelle la dynamique. C'est en fait au cours de, bon, c'est un peu compliqué, mais il y a l'Assemblée parlementaire paritaire entre les pays UE et les pays Afrique, Caraïbes, Pacifique. Ça, c'est deux fois par an, il y a des réunions à l'échelle européenne, donc finalement, les parlementaires de l'Union européenne sont appelés à rencontrer les parlementaires des pays partenaires. Voilà. Et donc, dans ce cadre-là, pas plus tard qu'en juin dernier, SOS Faim a pu organiser, avec la direction de la coopération de l'Union européenne, une réunion où toute une journée, ils ont été à l'écoute des organisations paysannes. Donc, il y avait une dizaine de leaders d'Afrique de l'Ouest qui étaient là pour témoigner, pour rendre compte de leur réalité, transmettre leurs revendications. Et il y avait une écoute en face de cette coopération. Et ça, c'est très important. Ça se construit petit à petit. Et même aussi au niveau des parlementaires, parce que finalement, ces leaders paysans qu'on invite deux fois par an à participer à ces assemblées, quand ils rentrent chez eux, ils ont une nouvelle légitimité chez eux. Et ils nous le disent, dans leur pays, ils n'arrivent pas à rencontrer leurs propres parlementaires, mais que tout à coup, d'être invités en Europe, déjà, ça leur permet, dans ces réunions, de rencontrer leurs parlementaires. Et ensuite, ça valide leur travail, les liens qui sont créés avec nous les valident, et de retour, ils ont beaucoup plus facilement accès. Donc, petit à petit, on réussit à construire une audience pour les organisations paysannes. Et ça, c'est vrai que ça donne un peu confiance pour faire évoluer les rapports de force.
Et obtenir a posteriori des résultats sur certaines décisions concernant des politiques agricoles dans le Sud.
Oui, alors après, c'est sûr qu'on est encore loin des résultats les plus importants, parce que là, le grand enjeu, et ce sera en 2014, c'est les accords de partenariat économique. Ça, c'est un dossier en souffrance depuis des années. C'est-à-dire que l'Europe impose, pour faire simple, l'Europe impose aux pays partenaires l'ouverture de ses frontières, alors même que c'est des concurrences qui ne sont pas du tout au même niveau. Donc, c'est tout le temps, les pays du Sud sont forcément perdants là-dedans. Mais c'est les suites de l'Uruguay Round, du GATT, etc. On veut ouvrir les frontières. L'Europe n'en démord pas. Mais ça fait, c'est grâce aux organisations paysannes qui résistent que ces accords ne sont toujours pas signés. Donc c'est tout le temps reporté. Tout ce qu'on réussit à faire pour l'instant, c'est à ne pas signer. Mais on n'arrive pas à inverser le contenu des accords qui pourraient être en faveur enfin des pays du Sud, c'est-à-dire leur reconnaître le droit à protéger leur propre marché. C'est juste ça qu'on demande. Ou à exclure les produits alimentaires des réglementations des droits de douane, puisque... On ne devrait pas considérer que l'alimentation, c'est un bien matériel. Et en tout cas, reconnaître tout simplement que l'Union européenne, si elle a construit sa politique agricole commune, c'était d'abord en protégeant son marché. Ça, on l'a fait pour nous et on ne le reconnaît pas aux pays du Sud. Donc, c'est une aberration de plus.
Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous ou nos auditeurs, pour vous aider à mettre pression et donc à passer à l'étape suivante, qui est de inverser la tendance? Qu'est-ce qu'on a dans nos mains, nous?
Se sentir concerné. Non, mais déjà, se sentir concerné. Et puis, comme le disait Sébastien, c'est agir en tant que consommateur responsable. Au petit niveau, chacun à la base. Et aussi, on peut reprendre le petit colibri de Pierre Rabhi. Hein. Le petit colibri, il essaie d'éteindre l'incendie et tout seul, en lâchant de l'eau sur l'incendie, ça ne vaut pas grand-chose. Les animaux de la savane rigolent de lui, mais il dit oui, mais moi, je fais ma part. Je veux dire, si chaque animal de la savane fait sa part, on éteint l'incendie.
C'est beau, ça.
Oui, c'est très beau.
Et je voulais juste compléter, parce que je pense que malgré tout, la diversité des approches dans ces combats-là sont super importantes pour moi, quoi. Et tu dis, qu'est-ce qu'on a dans nos mains? Il y a ce qu'on a dans nos mains, il y a ce qu'on n'a pas. Et ce qu'on a, je pense que c'est quand même cette créativité, cette intelligence citoyenne, cette innovation sans cesse dont parlait justement Pierre Rabhi à la fin de son film, de montrer qu'on est plein d'idées dans les mouvements associatifs citoyens. On est en contact avec plein de gens. Il y a une réelle solidarité qui se manifeste, j'ai envie de dire, chaque jour, que ça soit entre pays du Sud, pays du Nord, que ça soit entre paysans et producteurs, que ça soit entre citoyens eux-mêmes. Mais je pense qu'il y a vraiment aujourd'hui une diversité et une reconnaissance de la diversité des approches à avoir. Je pense qu'il est tout aussi efficace de faire du plaidoyer politique, et je pense qu'il est tout aussi efficace de s'organiser en groupe d'achat pour soutenir nos producteurs. Je pense qu'il est tout à fait aussi efficace de rejoindre Greenpeace ou d'autres groupes pour s'attaquer à la question des OGM. Je pense qu'il est tout aussi efficace d'aller emmerder ces lobbyistes de l'agro-industrie à Bruxelles. Et je pense que l'un n'exclut vraiment pas l'autre. Et qu'aujourd'hui, dans la situation actuelle, on peut pas se priver d'une de ces approches. Elles sont vraiment toutes importantes, quoi. Et qu'il faut pas, je le redis, il faut pas être expert de quoi que ce soit pour commencer à faire ça. On doit tous manger chaque jour. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, il y a une réelle injustice dans la manière dont sont réparties les richesses, dans le droit qu'on a à se nourrir dignement au Nord et au Sud. Et même au Nord, il faut le rappeler, au Nord, le droit d'alimentation est aussi bafoué. Un milliard de gens qui sont obèses, si ça, c'est pas du bafouement du droit d'alimentation, c'est quoi? Il faut se rappeler ça aussi, parce qu'on parle effectivement de droit d'alimentation au Sud, mais le droit d'alimentation au Nord est aussi bafoué. Et donc, effectivement, qu'aujourd'hui, c'est pas normal que la majorité ou que tout le monde n'ait pas accès à une alimentation saine, de qualité. Ça aussi, je pense qu'il faut le rappeler, parce que ça, c'est un levier sous lequel on peut travailler. Tu dis, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui dans nos mains? On a la situation négative de l'état de santé des populations au Nord, principalement dû à l'alimentation, à une mauvaise alimentation. Et là-dessus, c'est aussi quelque chose sur lequel un gars comme De Scutter insiste pour dire, ça va aussi passer par notre souveraineté alimentaire au Nord, qu'on défendra aussi la souveraineté alimentaire des pays du Sud et aussi l'accès et le droit à l'alimentation des pays du Sud.
On va peut-être rappeler que Olivier De Scutter, donc, c'est le rapporteur spécial de l'ONU sur les questions alimentaires.
Ouais, rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation.
Alors, il nous reste quelques minutes avant d'arriver à la fin de cette émission. J'aurais voulu laisser la dernière parole à Mafor et à Hassan. Qu'est-ce que vous diriez à nos auditeurs pour qu'on puisse faire un peu avancer les choses, ou quel message est-ce que vous désireriez communiquer?
Ok, moi je dirais que les gens doivent croire à l'agroécologie parce que c'est un système qui respecte la terre, qui nous nourrit. Et cette nourriture sortie de l'agroécologie est une nourriture saine et c'est une nourriture de qualité. Parce que si nous vivons, chacun de nous veut vivre longtemps. Eh bien, si tu veux vivre longtemps, il faut bien manger et manger quelque chose de sain, quelque chose de qualité. Merci.
Merci à toi, Hassan. Mafor.
Bon, je dirais la même chose. Que il faut que les gens prennent leur santé à main. Il faut que les gens savent ce qu'ils mangent et cherchent à voir ce qui est meilleur. Et puis, je dis bravo aux structures au nord qui sont en train de supporter ou bien de donner l'accompagnement ou l'appui aux organisations du Nord pour promouvoir l'agroécologie.
Voilà, merci beaucoup à tous. Un dernier petit mot peut-être de Sébastien.
Oui, rapide, c'est toujours bien de donner des dates et des trucs de mobilisation. Donc rappelez quand même qu'il y a la campagne droit alimentation qui se lance pour 2 ans. Rappelez qu'il y a le jugement du procès des faucheurs de patates OGM qui sera rendu fin septembre. Rappelez que aussi le 19 et 20 décembre, lors du prochain sommet européen, il y aura notamment une convergence entre les producteurs de lait et les syndicalistes qui vont essayer aussi de s'attaquer à la question de l'économie de l'austérité par l'approche justement de l'agriculture, de l'alimentation. Donc voilà.
À suivre. Ben, merci à tous.
Merci.
Merci. On aurait pu faire durer le débat encore des heures, en fait. j'ai passé un très bon moment. On va.
Merci Sylvain pour la technique.
Voilà, on remercie Sylvain pour la technique. Et on se retrouve juste après avec l'émission Hors des âges.
Un petit morceau de musique en attendant?
Oui.
Mais. He's gone. Mommy, he's gone. Mommy, he's gone. Mommy. Ain't no use of listening.